long des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Cette semaine, des femmes dans la Deuxième Guerre mondiale. Quatrième portrait, Charlotte Delbo.
Et c'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas. J'étais à Auschwitz et je disais, si je rentre, j'écrirai un livre. Et j'en avais déjà le titre. C'était « Aucun de nous ne reviendra, un vers d'Apollinaire ».
De Louis Jouvet, qu'elle assistait avant-guerre, elle avait appris l'exigence. Quand vous arrivez sur la scène, vous êtes à la place d'un personnage, vous témoignez pour lui devant le public. À Auschwitz, où elle fut envoyée avec le convoi de femmes déportées politiques du 24 janvier 1943, elle faillit perdre la mémoire des temps d'avant et des vers qu'elle savait par cœur. Ces figures de théâtre devenaient des spectres dans les marais. Des femmes du 24 janvier 1943, 49 revinrent sur 230. « Ce que nous attendions, dit-elle, n'était pas ce qui nous attendait. » La vie, cependant, lentement la reprit et elle écrivit des pièces, de la poésie, sans nul souci d'être connue. Elle se tenait au milieu de la pelote des destins enchevêtrés des mortes et elle tirait les fils, obstinément, modestement. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme l'un des grands écrivains d'une expérience indicible.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Paul Gratvol, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Professeur à l'université de Varsovie. Vous venez de tenter avec Violaine Gély une biographie de Charlotte Delbo qui paraît chez Fayard. Je dis tenter parce qu'elle aurait regardé ça d'un œil très sévère. Un œil d'ailleurs qu'elle dissimulait derrière un monocle à la fin de sa vie parce que c'était pas le genre à porter des lunettes comme tout le monde.
Ce n'était surtout pas le genre à vouloir se faire plaindre et à vouloir qu'on gémisse sur son sort, encore moins elle-même à gémir. Oui.
Je me souviens d'une vieille résistante chez qui j'étais, j'arrivais pas à ouvrir la bouteille de champagne. Et elle me dit, mon pauvre Lebrun, ben vous serez pas bon à grand-chose quand vous serez en prison. C'était le genre de conversation qu'on pouvait avoir avec Charlotte Delbo à la fin de sa vie.
Sans doute, d'autant plus qu'elle tenait beaucoup au champagne, qu'elle tenait à la fourrure et qu'elle tenait à montrer qu'elle était vraiment passée de l'autre côté et revenue à la vie.
Vous racontez, triomphe, est-ce que ce serait pas mieux une 4x4 ou bien une Porsche? Elle se pose ce genre de questions à 60 ans.
Eh bien, tant mieux.
Et elle choisit quoi finalement? Expliquez-vous.
La triomphe.
Voilà. Alors Charlotte est née d'un milieu tout de même très modeste. En 1913, elle s'est mariée très jeune avec un militant communiste qui s'appelait Georges Dudac. Elle a une formation de secrétaire. Elle aime bien dire qu'elle a fait des études de philosophie.
Certes, mais ce sont des études de philosophie fort parallèles, car en même temps, elle avouera n'avoir jamais eu le baccalauréat. Il s'agissait des rencontres qui pouvaient se tenir en marge de l'université ouvrière qui avait été lancée par le Parti communiste au début des années 30, et où elle a rencontré des philosophes qui ensuite ont fait souche, je pense à Politzer et à quelques autres.
Et Henri Lefebvre, dont elle sera l'assistante après-guerre, mais avant-guerre, rencontre extraordinaire avec des hommes inénarrables. Elle est l'assistante de Louis Jouvet.
Quand j'ai rencontré Louis Jouvet, encore une fois par hasard, puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants comme font tous les groupes d'étudiants de philo, il m'a demandé ce que vous intéressez au théâtre. Oui, certes, j'allais toujours dans les places à 4 francs tout là-haut. Est-ce que vous avez songé à faire du théâtre? Je dis, moi, non, jamais. Jamais. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et j'étudiais la philosophie. Il me dit, mais ça vous intéresse, la philosophie? J'ai dit oui, mais ça me passionnait. Trop d'idées, a-t-il dit. En effet, le théâtre m'a passionné beaucoup plus encore.
Rideau, pour le rappel. Il y a des soirs où un assassine mieux que l'autre. Ce soir, c'était parfait. Il y avait au premier rang une petite blonde qui me regardait. Tu parles qu'elle se fichait de monsieur Alexandre Dumas. Elle n'avait pas d'oreilles, elle n'avait que des yeux. Des yeux pour le beau Sinclair.
Extrait de La fin du jour, qui date de la période où Charlotte Delbo a rejoint l'équipe de l'Athénée, travaille avec Jouvet, transcrit ses cours et apprend de lui beaucoup d'exigences.
C'est sans doute grâce à ce qu'elle a appris avec Jouvet qu'elle a pu tenir dans les conditions les plus extrêmes. Cette exigence, elle le raconte elle-même, est aussi une exigence d'attention. C'est en analysant le comportement de soldats allemands qu'elle a pu s'échapper à un moment crucial et éviter de partir avec un groupe dont le sort était sans doute scellé. Jouvet, pour elle, fut un maître. Elle lui écrivit virtuellement, elle lui écrivit réellement pendant la guerre, après la guerre, et ils ne se quittèrent qu'à la mort de Jouvet, mais de façon très intéressante.
On parlera tout à l'heure de la suite.
Je crois qu'elle n'a jamais été sa petite amie, et Dieu sait qu'il en eut un certain nombre.
Il y a par exemple deux secrétaires à ses côtés, puis on va l'entendre avec Madeleine Auzeret dans un instant. Pendant la tournée qu'entreprend Louis Jouvet vers l'Amérique latine, missionné d'ailleurs par le gouvernement de Vichy, Charlotte Delbo, on raconte juste le départ de la tournée d'abord, l'accompagne.
Comme elle l'avait accompagné avant en Suisse, c'est une des pièces maîtresses de son équipe, et c'est grâce à elle que tout cela peut aussi tourner. Donc bien évidemment, elle est là, elle participe aux inventaires, et ensuite, elle participe à chaque fois au montage des pièces.
Alors Rio, Montevideo, beaucoup d'autres villes, Buenos Aires, d'Amérique latine, avec souvent au programme Giraudoux, dont le souvenir l'accompagnera sans cesse.
L'art dramatique français compte à cette heure plusieurs poètes authentiques, et parmi ceux-là, j'ai eu le privilège de rencontrer et de me consacrer à Jean Giraudoux. Il est pour moi l'un des plus grands. Prononcer son nom, c'est parler du théâtre.
Ondine, de Jean Giraudoux.
Moi, on m'appelle Hans.
C'est un joli nom.
Ondine et Hans, c'est ce qui se fait de mieux comme nom au monde, n'est-ce pas?
Ou Hans et Ondine.
Oh non, Ondine d'abord. C'est le titre, Ondine. Cela va s'appeler Ondine, ce conte où j'apparais, ça et là, comme un grand niais, bête comme un homme. Il s'agit bien de moi dans cette histoire. J'ai aimé Ondine parce qu'elle le voulait. Je l'ai trompée parce qu'il le fallait. J'étais né pour vivre entre mon écurie et ma meute, non. J'ai été pris entre toute la nature et toute la destinée comme un rat.
Ondine, l'aquatique, la translucide, la transparente qui lui apparaîtra, comme elle entendra d'ailleurs la voix de Jouvet dans les marais d'Auschwitz. Mais n'anticipons pas. Automne 42, ils sont encore tous, Madeleine Auzeret, Charlotte Delbo, Louis Jouvet, en Amérique latine. Et
dans des circonstances sur lesquelles nous n'avons pas toutes les informations, elle a un débat très dur avec Jouvet, qui savait qu'elle gardait des contacts avec son mari. Son mari était un résistant communiste. Il avait été partiellement formé à Moscou. On a affaire à un vrai agent. C'est l'homme qui va chercher Aragon trois fois en zone sud pour le faire revenir en zone nord. C'est donc pas exactement n'importe qui. Et elle, sachant que son mari risque sa vie tous les jours, décide de l'accompagner dans ce risque quotidien.
Énigme, dites-vous dans votre livre avec Violaine Gély. Parce que Jouvet lui explique, bon, enfin, ton mari, il n'a pas besoin de s'embarrasser d'une femme, tu vas te jeter dans la gueule du loup. Et c'est précisément ce qu'elle fait.
C'est exactement ce qu'elle fait, mais il faut bien comprendre que c'est une femme qui a déjà été associée à son mari, qui a une certaine expérience, à mon sens, de la clandestinité déjà dans les années 30, et c'est une génération de gens qui ne parlent pas, même sous la torture, et ce sont des caractères de femmes extrêmement trempées. Si on a réussi à faire un convoi entier de femmes résistantes un peu plus tard, c'est bien qu'il y en avait.
Alors elle fait de la résistance clandestinement, bien évidemment, avec son époux, rue de la Faisanderie à Paris. C'était leur base, louée par le Parti communiste, mars 1942, arrestation du couple.
À la suite de ce travail diabolique et si précis des brigades spéciales affectées à la lutte contre les résistants communistes, les documents en notre possession aujourd'hui ont été largement tronqués de façon successive. Il y a des documents qui ont trois foliotages, c'est absolument passionnant. Et on ne saura jamais si c'est de la traîtrise, si c'est quelqu'un qui a été payé. Bref, le point de départ n'est pas connu, le point d'arrivée est malheureusement connu. Ils se retrouvent tous les deux entre les mains de la police française qui les transmet plus tard ensemble aux Allemands. Ils se retrouvent à la santé, au rez-de-chaussée, à l'étage géré par les Allemands.
Dudac est exécuté. C'est ce qui le faisait beau d'avoir choisi, dit-elle. Et elle reste en prison jusqu'au 24 janvier 1943, où, transportée à Compiègne, elle est mise dans un train avec 229 autres compagnes. C'est un convoi d'exception constitué essentiellement de femmes déportées politiques. Beaucoup sont communistes, certaines très connues, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova. C'est un train dont la description a souvent été faite.
C'est un train où, grâce à Charlotte Delbault et grâce à d'autres qu'elle a fait parler elle-même plus tard, on y reviendra peut-être, on a réussi à avoir un nombre d'informations qu'on n'aura pas sur d'autres trains, où là, malheureusement, les retours ont été encore plus rares. Et c'est un train qu'on imagine aisément. Quand il arrive le 27 février à Auschwitz, dans la journée du 27, selon la station météorologique du parc britannique de l'université Jagiellon à Cracovie, je crois que la température est descendue jusqu'à moins 25.
Oui, avoir froid à Auschwitz, ça n'a pas le même sens qu'avoir froid ailleurs. Récit dans un documentaire de Claude-Alice Perrotte, le convoi du 24 janvier 43, de l'arrivée de ces 230 femmes, qui a fait date.
On est arrivé et alors on a eu une réaction encore de très très française, ça c'est sûr. Chanter une Marseillaise merveilleuse, je ne sais pas d'où elle sortait.
Mais oui, je ne sais pas comment avait le courage
ce convoi de femmes qui est rentré la tête haute, sauf moi et Juju, en train de chanter la Marseillaise, c'était sublime, sublime. Et alors après, on a eu dans la journée, des Polonaises nous ont contactés, nous ont parlé, nous ont dit. Les SS ont fait rentrer tous les convois qui partaient au travail, tout le monde est rentré. Parce qu'ils ont dit que les Françaises avaient chanté l'Internationale. Les convois qui partaient au travail tout le matin, gardés par les SS et les chiens, eh bien ces commandos, on les a fait rentrer parce qu'on chantait l'Internationale. C'était une belle Marseillaise qu'on avait chantée.
Vous reconnaissez les voix? Il y a Lulu, Carmen, les sœurs Serres.
Ça fait trop longtemps que j'ai vu le film, je ne réussis pas à le remémorer, mais Claude Alice nous dira ça très bientôt.
Dans ce convoi, 230 personnes, dont 30 ont été arrêtées sans avoir fait de résistance, 2 étaient des délatrices, et dont tous les portraits sont faits dans un des livres étonnants qu'elle a publié plus tard, Le convoi du 24 janvier 1943.
Tous les portraits sauf un, et d'ailleurs nous avons eu la chance à la suite de l'apparition du livre d'avoir une lettre de la fille de Madame Humidot, qui était la dernière, qui finalement, et c'est une information qu'on a eue après avoir fait le livre, a survécu 3 jours, je crois seulement, à Auschwitz. Mais tous les autres portraits ont pu être faits grâce à un travail absolument incroyable de Charlotte Delbault elle-même, accompagnée de quelques amis déportés, qui ont repris contact avec toutes les survivantes, avec les descendants et descendantes ou familles de celles qui avaient survécu, et qui ont fait une enquête sociologique qui se termine par des vignettes biographiques fort bien écrites, on aimerait voir ça dans des ouvrages de sciences sociales par ailleurs, écrites avec délicatesse, car quand une femme avait été trompée, etc., on respectait la vie privée, et qui donne...
C'est-à-dire que quand, par exemple, la femme avait été dénoncée par son mari, résistant, qui voulait se débarrasser d'elle pour vivre avec sa maîtresse, cette femme, elle voulait tirer les choses au clair, son dernier mot, c'était ça. Ou bien, je le maudis, mon mari, ajoutait-elle.
Et c'est resté. Donc il y a des choses qui sont restées aussi. Pour l'essentiel, c'est resté. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est aussi un message de vie. Comment réussir à faire passer un message de vie sur un train qui a autant de mortes? C'est un message miraculeux. Et je sais que des gens qui travaillent sur la déportation bien au-delà d'Auschwitz utilisent ce livre, car il est réellement unique.
Elle est France, beau prénom. Rondeau, elle était propriétaire d'un hôtel particulier à Paris. Alors elle giflait les Allemands quand ils étaient à portée de main, ou elle leur faisait des crocs en jambes. Jamais peur d'eux, ajoutait-elle.
Ça rappelle un peu ce qu'on évoquait sur le caractère de ces femmes, qui étaient proprement incroyables, et on aimerait que cela soit distribué dans les écoles pour former les futures générations.
Et puis, à vue... La maison en briques, à l'extérieur des barbelés, entre la haie de rosiers et les barbelés, passe le chemin qui mène au crématoire. C'est le jardin, c'est la maison du commandant où jouent les enfants.
Loin vers l'infini s'étendent des grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Dans ce camp morné sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit. Et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Charlotte Delbo, 1913-1985, on entendait le chant des marins interprété par Hugues Royot. Je lis dans Mémoire de la chanson de Martin Pénès, c'est un chant qui, dans la musique, existe depuis les premiers camps nazis en Allemagne dès 1933 et qui est connu, le bouche à oreille, en France avant la guerre, chanté dans les prisons en France, édité de Libération. Et Jacques Sigal, notre réalisateur, me précise, il y a des paroles en yiddish aussi. Peut-être Charlotte Delbo, qui était si attentive aux chorales, l'a-t-elle fredonné avec des prisonnières à Auschwitz-Birkenau? C'est là qu'elle se retrouve avec les 230 déportés du 24 janvier 1943. Il y a des femmes de toutes nationalités.
Et beaucoup de Polonaises, des Russes, bien sûr des Allemandes, hein, des Slovaques, des Hongroises un peu moins, mais de toute l'Europe occupée. Et ce qui est passionnant dans le livre de Charlotte Delbo, aucun de nous ne reviendra, c'est en plus la sensibilité au sort particulier des déportés juives, qui elles aussi venaient de toute une série de pays, parlaient des langues extrêmement différentes, mais avaient un sort, ont connu un sort, bien évidemment, bien souvent, beaucoup plus bref à Auschwitz que les déportées françaises. Et le témoignage, dans aucun de nous ne reviendra, de Charlotte Delbo, a ceci aussi d'exceptionnel, outre sa qualité littéraire et bien d'autres qualités, c'est de rendre compte de ce sort spécifique avec une sensibilité proprement incroyable quand on pense qu'il a été écrit en 46.
Mi-43, après l'hiver le printemps glacial, le taux de survie du convoi des femmes déportées politiques du 24 janvier est quand même supérieur et de loin à celui des déportés juifs, puisqu'elles restent une cinquantaine. Et, énigme, elles vont connaître des transferts qui, d'une certaine manière, vont apparaître rétrospectivement comme une grâce.
Alors, c'est un miracle statistiquement un peu inexplicable, mais dont certains mécanismes peuvent être compris. Première chose, il faut bien savoir que la gestion d'un camp comme Auschwitz ne relevait pas du tout d'une rationalité totale. Et il y a eu des comportements parfaitement contradictoires. Deuxièmement, dans les jours où elles arrivent, en janvier 43, c'est le moment où la situation bascule définitivement à Stalingrad. À l'été 43, vu justement le fait qu'on connaissait des personnalités de ce convoi, là, nécessairement, la direction allemande du camp sait que faire disparaître l'ensemble de ces femmes pourrait être problématique, si on peut s'exprimer ainsi.
Alors certaines, elles sont un peu plus d'une cinquantaine à l'époque, vont dans un sous-camp, Raïsko, où on extrait des pissenlits pour produire des ersatz, l'équivalent du latex. Et puis c'est Ravensbrück. Ravensbrück, où les conditions sont moins difficiles, et où elle se remet à faire du théâtre.
Mais déjà à Raïsko, c'est là où c'est passionnant, aux alentours de Noël 1943, unique représentation, puisqu'ensuite on les retire de Raïsko, mais il y a eu, selon Charlotte Delbault, bien évidemment, dans les archives, il n'y a pas de traces de la chose, le malade imaginaire, monté par ce groupe de femmes qui avaient réussi à détourner des bouts de pissenlit, de tissu et autres, pour faire, après un travail incroyable,
pour fabriquer des accessoires,
un décor, un montage de scène, et reconstituer les textes, au moins en bonne partie.
Oui, parce qu'on n'avait pas le livre, c'était vers par vers qu'il fallait puiser dans sa mémoire.
Et là, Charlotte a eu un rôle, bien sûr, essentiel, aidée de Camille Bloch, qui était une déportée juive française, qui, elle aussi, avait une connaissance incroyable du théâtre, et qui, après-guerre, a réussi à survivre de façon miraculeuse et s'est retrouvée aux États-Unis.
Alors, Paul Grandvol, vous publiez une biographie de Charlotte Delbault avec Violaine Gély chez Fayard. Et comme vous, nous insistons sur le personnage de Jouvet, libéré en avril 45. Passant en Suède, revenant en France, elle n'a de cesse d'écrire. Mais ce sera comme une longue lettre, ininterrompue, toujours inachevée.
Cher Louis Jouvet, si Eurydice revenait et vous demandait un rendez-vous, sans doute le lui accorderiez-vous, surtout si elle vous disait que c'est pour parler du théâtre. Vous vous rappelez, Valoris, dans ces semaines de l'été 39 qui ont précédé la guerre? Peut-être est-ce loin dans votre mémoire? Nous avons tant voyagé depuis. Pour moi, c'est le début d'un destin. Vous vous rappelez nos conversations pendant la promenade du mât au village où je logeais? Ces propos que nous venions d'échanger, je les notais dès que j'arrivais dans ma chambre. Je crois que je n'oubliais pas une phrase. Je ne savais pas ce que j'en ferais. La guerre, au début, ne m'a pas laissé le temps de m'y reporter. J'avais presque oublié ce cahier. En tout cas, je ne savais vraiment plus où il était, lorsqu'il a ressurgi au poing du policier qui fouillait l'appartement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Laissez. Rien qui vous intéresse. Nous verrons. Jeté avec un fouillis de livres et de papiers qui s'entassaient sur le tapis. Jeté ensuite dans une camionnette, il a dû achever de se perdre dans les désordres de la préfecture de police.
Lecture de Spectre, mes compagnons, par Tania Torrance. Une place, évidemment, lui est réservée à l'Athénée, mais le retour ne va pas être facile tout de suite. D'ailleurs, elle écrit sans souci aucunement d'être publiée.
Elle écrit, elle est parfois publiée par petits morceaux en Suisse, dans la revue Annabelle pour deux fois, dans un quotidien pour un autre récit. Mais effectivement, son œuvre majeure, qui deviendra « Aucun de nous ne reviendra », elle l'a intentionnellement mis sous le boisseau pour 20 ans.
Parce que l'important pour elle, c'est de se laisser reprendre par la vie. Mais se laisser reprendre par la vie, c'est malaisé. Il ne s'agit pas de refaire sa vie. C'est une expression idiote pour elle.
Non, il s'agissait de déjà se rétablir physiquement, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire totalement. Et il s'agissait, dans un premier temps, de reconstruire sa relation avec Jouvet dans le travail, ce qu'elle n'a pas pu faire. Et à ce moment-là, elle a quand même lutté pour maintenir le goût de la vie, maintenir la joie des bonnes choses, acheter des fourrures. Bref, c'est quelqu'un qui a profité volontairement et ouvertement des réparations allemandes. C'est quelqu'un qui a voulu s'inscrire dans la joie de vivre, mais aussi dans le combat. C'est quelqu'un qui va revenir, notamment pendant la guerre d'Algérie.
Mais elle va travailler à l'ONU, parce que c'est bien payé. Elle va travailler chez Henri Lefebvre, qu'elle retrouve. Mais à côté de cette vie dont elle profite de chacun des plaisirs, il y a la vie d'à côté, celle d'Auschwitz. Elle dit... C'est la mesure de nos jours, allant rendre visite aux survivantes, dont elle fait un portrait étonnant. Tout à l'heure, c'était le portrait des 230, maintenant c'est le portrait des 49, là où elles sont après-guerre.
Et oui, c'est aussi le choix de montrer qu'on revient parfois sans revenir. Et c'est, à mon sens, aussi le choix d'essayer de faire comprendre ce qui, bien sûr, n'a pas été compris à ceux qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas entendu ce que ça voulait dire que de se retrouver dans cette société française. Et toute l'histoire de la vie de Charlotte Delbault est un portrait en creux de cette société.
Marie-Louise vit à l'écart avec son mari Pierre, écrit-elle dans Mesure de nos jours. Et alors, vous qui aimez les belles histoires d'amour, dites-nous ce qu'est ce Pierre. Pierre, il vit comme s'il avait été déporté. Il sait tout de chaque fait de sa femme pendant les années de déportation.
Mais c'est un des exercices qu'il y a dans ce livre, c'est de montrer à la fois la fascination et à la fois le fait que ça ne passe pas finalement. Et c'est ça toute la lutte de Charlotte Delbault, et c'est la lutte qu'on a eue nous comme biographe pour faire comprendre comment il y a la vie et la non-vie en même temps jusqu'au bout, et en même temps dans un engagement qui s'est maintenu aux côtés des Algériens, aux côtés de tous les peuples qu'elle estimait être martyrisés. C'est un cas unique d'engagement, sans jamais se renier, malgré le fait qu'elle était très critique à l'égard du Parti communiste. Elle n'a jamais publiquement trop directement attaquer celui-ci, car pour elle, l'important, c'était l'engagement en lui-même et pour les valeurs.
Alors, elle a écrit sur la Grèce, elle a écrit sur le procès des anarchistes de Burgos, elle a écrit sur le printemps de Prague, en disant « la menace est toujours grande, mais la littérature reste une arme ».
C'est le sens de sa vie. C'est quelqu'un dont le premier réflexe a été de répondre par la plume. Et la raison pour laquelle elle a attendu ses 20 ans, c'est tout simplement qu'elle voulait être sûre d'avoir fait une œuvre littéraire aussi.
Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits, ayant traversé des pays entiers. La gare n'est pas une gare. C'est la fin d'un rail. Ils regardent et ils sont éprouvés par la désolation autour d'eux. Le matin, la brume leur cache les marais. Le soir, les réflecteurs éclairent les barbelés blancs dans une netteté de photographie astrale. Et ils sont effrayés.
Et maintenant, ajoute-t-elle, je suis dans un café en train d'écrire ceci.
Eh oui. Finalement, pour résumer, le style de Charlotte Delbault, c'est ça. C'est de dire quelque chose qui donne le droit d'être habillé de votre peau et de votre poil.
Et jamais de rayures, recommandait-elle à propos de la mise en scène de ces pièces. Alors, beaucoup de mise en scène, beaucoup de lectures sur notre site Tout Détail, votre livre chez Fayard, consacré à Charlotte. Jacques Sigal, Jean-Philippe Jeanne, Anne Le Guénec, Franck Olivard, Camille Poux, Jalaguier et Frédéric Martin dans l'équipe de La Marche de l'Histoire.